Excellent réveil à tous, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les 900 000 jeunes, en grande majorité des lycéens, inscrits sur la plateforme Parcoursup, recevront ce soir les réponses à leurs vœux pour leurs études supérieures. Cette fois, le gouvernement promet d'éviter la pagaille de l'année dernière, précision avec Hakim Kasmi.
23 anciens ministres socialistes réclament des excuses pour la mise en cause de François Mitterrand, accusé d'inaction dans le génocide du Rwanda par la tête de liste Raphaël Glucksmann.
Les producteurs français de betteraves de l'allemand Südzucker proposent de reprendre en coopérative deux sites menacés de fermeture. Plus de 130 emplois sont menacés. La décision est attendue aujourd'hui.
Que sont devenus leurs proches arrêtés par le groupe État islamique?
Un collectif de familles syriennes lance un appel aux pays de la coalition internationale pour tenter de savoir la vérité sur ce qui est arrivé à leurs proches disparus. Nous les entendrons. Et puis nous irons en Islande pour une initiative porteuse d'espoir pour lutter contre le changement climatique. Le CO2 d'une centrale électrique est transformé en roche pour nettoyer l'atmosphère. Et puis la question du jour, Guillaume.
Dans une dizaine de minutes, Sophie, 225 millions d'euros pour la culture. À quoi pourrait servir ce fonds d'investissement? On posera la question à Françoise Benamou, elle est professeure d'économie à l'université de Paris 13.
La fin de l'attente, mais peut-être pas la fin de l'angoisse pour près de 640 000 lycéens qui vont recevoir à partir de ce soir 19h des propositions pour leurs vœux d'études supérieures. Les résultats de Parcoursup vont tomber à partir de ce soir et jusqu'à dimanche. Le ministère de l'Éducation nationale promet qu'il a tiré les leçons de l'année dernière et met en avant les nouveautés instaurées cette année pour permettre aux étudiants de choisir parmi les 14 500 formations proposées à Kim Kasmi.
Meilleure ergonomie, carte interactive avec la liste des formations disponibles. Cette année, les candidats auront 3 jours pour accepter ou pas les formations qui leur seront proposées en cas de meilleure offre, ce qui donnera aussi plus de flexibilité. Les lycéens connaîtront aussi leur chance d'être admis en fonction de leur rang dans le classement en se basant sur les résultats de l'année dernière. Pour éviter d'avoir trop de candidatures sur le carreau dans les filières sous tension comme droit, psycho ou STAPS, les étudiants d'Île-de-France pourront postuler dans les 3 académies de Paris et sa banlieue. Des bourses à la mobilité seront également octroyées pour les étudiants boursiers. Jérôme Teillard, responsable Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Cette année, nous mettons en place une aide à la mobilité de 500 euros qui sera ciblée sur les lycéens qui sont boursiers. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui ont le plus de difficultés généralement à faire des décisions de mobilité et nous souhaitons encourager ceux qui, parce qu'ils veulent aller dans une formation qui les intéresse mais qui peut se trouver dans une autre académie, nous souhaitons les inviter, les aider à faire ce choix.
Autant de mesures qui ne rassurent pas tous les étudiants et les syndicats, car ce sont bien les algorithmes et les dossiers des élèves qui resteront les principaux critères d'admission des étudiants, encore plus dans les formations les plus demandées.
Hakim Kasmi, parmi ces jeunes, 110 000 environ s'inscrivent pour une reprise d'études. C'est 10 000 de plus que l'année dernière, alors que pour beaucoup d'entre eux, l'an passé déjà, l'UNEF pointait les nombreux cas de jeunes qui ont dû prendre une année de césure sans l'avoir choisi, ou bien d'aller dans des écoles privées en l'absence de formation dans le public. 23 anciens ministres socialistes réclament des excuses pour la mise en cause de François Mitterrand, accusé d'inaction pendant le génocide du Rwanda par la tête de liste soutenue par le PS. De Hubert Védrine à Paul Quillès, en passant par Bernard Cazeneuve, ils ont écrit une lettre au patron du PS, Olivier Faure, pour réclamer des excuses. Des piliers du Parti socialiste, outrés d'entendre Raphaël Glucksmann, la tête de liste Place Publique PS, affirmer que François Mitterrand serait coupable de ne pas avoir agi lors du génocide au Rwanda de 1994, Laurence Perron.
C'est plus qu'une faute politique, c'est un crachat sur la tombe de François Mitterrand. Voilà en substance ce qu'écrivent ces 23 anciens ministres socialistes à Olivier Faure, le premier secrétaire du parti. Ils sont ulcérés par les accusations répétées de la tête de liste, Raphaël Glucksmann, sur la responsabilité de l'ancien président dans le génocide rwandais, comme très récemment sur Radio J.
Franchement, c'est le plus grand scandale de l'histoire de la Ve République. La France a armé, soutenu financièrement, soutenu politiquement des génocidaires.
Mais François Mitterrand alors, part de responsabilité dans ce génocide ou pas?
Bien sûr, il était président de la République.
Paul Quillès, qui fut 5 fois ministre de Mitterrand, auteur aussi d'un rapport de 1500 pages sur la tragédie rwandaise, ne décolère pas que l'homme qui porte la campagne du Parti Socialiste puisse considérer le vainqueur de 81 comme complice du génocide est une profanation. Lui et Hubert Védrine, qui était alors secrétaire général de l'Élysée, demandent à être reçus par le patron du PS Olivier Faure leur répond ceci.
Il y a encore des versions très différentes qui circulent. Je souhaite que les archives puissent être ouvertes et que chacun puisse se sentir à l'aise avec une part de notre histoire qui est une part forcément douloureuse.
Cela ne suffira pas à calmer la colère des Mitterrandiens qui exigent au contraire des excuses publiques. C'est bien mon genre, répond un peu bravache Olivier Faure.
Une polémique qui tombe dans un moment où les figures tutélaires de la gauche socialiste devaient venir à la rescousse d'une liste créditée pour l'instant de 5,5% d'intention de vote, alors que jamais dans l'histoire du PS le parti n'a fait moins de 13% aux européennes. Christiane Taubira tient un meeting ce soir à Rouen, alors que l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, signataire de la lettre, doit entrer en piste demain après-midi.
7h05 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Sophie Delpont. Un sommet mondial réuni aujourd'hui à Paris pour lancer l'appel de Christchurch.
Oui, l'appel de Christchurch pour lutter contre le terrorisme et son relais sur la toile 2 mois après les attaques terroristes qui ont fait 51 morts dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande. Emmanuel Macron, co-président avec la première ministre néo-zélandaise de ce rassemblement d'aujourd'hui, réunira donc plusieurs chefs d'État et des représentants des réseaux sociaux pour lutter contre la diffusion du terrorisme. On y reviendra dans le journal de 7h30 sur France Culture. Alors que depuis la Syrie, c'est un autre appel qui est lancé aujourd'hui, celui des familles syriennes dont les proches ont disparu après avoir été arrêtés par Daesh. Elles espèrent l'aide des pays de la coalition internationale pour savoir ce que sont devenus leurs proches. Alors que la bataille territoriale contre le groupe État islamique s'achève, ces familles ont monté un collectif pour demander notamment à la France et aux États-Unis de les aider. Claude Guibal les a rencontrées.
C'était la nuit. Firas, mon mari, était au café avec un ami à Raqqa. Alors qu'il rentrait à la maison en voiture, ils ont été arrêtés par des hommes cagoulés et armés. Ils l'ont emporté avec eux et on ne sait pas ce qu'il est devenu.
C'était le 20 juillet 2013 et depuis, Radir Naoufel cherche à retrouver son mari, Firas Hachsalé, un des premiers à s'être opposé à Daesh à Raqqa. Comme lui, il serait près de 8000 à avoir disparu entre les mains de l'organisation djihadiste. Dans les anciens territoires administrés par Daesh, on ne cesse de découvrir des fosses communes, des corps anonymes de toute provenance réenterrés à la va-vite sans enquête médico-légale ni prélèvement d'ADN. L'avocat syrien Anwar Albouni parle de catastrophe.
Daesh est fini. C'est maintenant qu'il faut agir, tant qu'il reste encore des preuves exploitables sur place. Si on laisse faire ainsi, toutes les preuves seront détruites, perdues. Il n'y aura plus rien ni personne pour nous donner des réponses.
Pour Nadim Houri de l'ONG Human Rights Watch, les pays de la coalition pourraient aider les familles en communiquant les informations perçus auprès des djihadistes faits prisonniers et des documents collectés.
Où sont ces documents essentiels aujourd'hui pour donner une réponse à ces familles ? Il ne peut y avoir de victoire qui ne prend pas en compte les intérêts des victimes.
Des victimes dont le sort hante des familles entières épuisées par cette quête sans réponse.
Amnesty International accuse le président Nicolas Maduro de crimes contre l'humanité au Venezuela. L'ONG déclare avoir réuni des preuves d'exécutions sommaires, de détentions arbitraires et de décès et blessures causés par un recours excessif à la force dans un rapport présenté à Mexico. Amnesty International a demandé hier à la Cour pénale internationale d'enquêter sur de probables crimes contre l'humanité commis au Venezuela par le pouvoir en place à Caracas, notamment pendant les rassemblements de janvier dans la capitale vénézuélienne. Aux États-Unis, l'offensive des anti-avortements se poursuit. Plusieurs États ont adopté ces derniers mois des lois restreignant l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Hier soir, c'est l'Alabama qui a à son tour voté un texte particulièrement répressif. Il prévoit que les médecins pratiquant des avortements risquent des peines allant jusqu'à 99 ans de prison. Nous irons à Washington dans le journal de 8h sur France Culture.
7h08, suite des matins sur France Culture. La décision doit tomber aujourd'hui pour les producteurs de betteraves. Ils proposent de reprendre en coopérative 2 sites de l'allemand Südzucker.
Oui, une réunion est organisée aujourd'hui à Strasbourg entre les salariés, les producteurs et la direction de Südzucker. L'entreprise basée en Allemagne qui prévoit de fermer 2 usines en France, dans le Calvados et dans la Somme. 130 emplois sont en jeu, sans compter les producteurs de betteraves. Des producteurs qui sont prêts à reprendre les 2 usines en coopérative. Ils présentent ce plan de reprise aujourd'hui, plan soutenu par les régions Normandie et Hauts-de-France. Mais il reste à convaincre Südzucker et pour l'instant, rien n'est fait, selon Patrick Dechauffour. Il est président du syndicat des betteraviers du Calvados de la Sarthe et de l'Orne.
Je n'imagine pas une seconde que les Allemands ne viennent pas autour de la table. Moi, je pense qu'ils vont se comporter à un moment donné en acteurs économiques européens responsables. Il ne faut quand même pas oublier que les usines Saint-Louis-Sucre, à différents moments donnés, ont bénéficié des subventions de l'État ou de l'Europe pour moderniser leurs outils. C'est un peu trop facile de dire « merci de nous avoir aidés ». au revoir et à la prochaine fois. Si vraiment nous arrivions dans cette situation, il est clair que ce serait un abandon pur et simple de la culture de betterave. Et la solution de reprise serait de se retourner vers les céréales, mais ça engendrait des pertes de marge brute très importantes. On a fait une estimation pour l'usine de Cany, pour les 15 000 hectares de betteraves, s'ils étaient transposés en céréales, ça serait une perte de marge brute de l'équivalent de 40 millions d'euros sur 5 ans en moyenne.
Des propos cueillis par Jade Péchira. Le repreneur de la sidérurgie d'Ascoval réclame un soutien financier pour pallier les difficultés du Brexit. Même si dans un communiqué, l'entreprise British Steel promet de tenir ses engagements, selon la chaîne d'information britannique Sky News, le gouvernement britannique aurait déjà lancé des préparatifs en vue d'une possible faillite du groupe. La reprise effective doit avoir lieu aujourd'hui, moins de 2 semaines après la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg de confier à l'entreprise britannique le site de Saint-Saulve dans le Nord, qui emploie 270 personnes en France. En Islande, le CO2 d'une centrale électrique est transformé en roche pour nettoyer l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la minéralisation, un processus naturel qui peut prendre jusqu'à plusieurs milliers d'années. Or, depuis 2012, les scientifiques et ingénieurs d'un projet baptisé CarbFix ont réussi à l'accélérer et à le réduire à 2 ans seulement. Jérémy Richard nous emmène à une trentaine de kilomètres de Reykjavik.
Au pied des sommets encore enneigés du massif volcanique de Hengitl, l'une des plus grandes centrales géothermiques au monde. Dans la vapeur qu'elle recrache, le CO2 d'origine volcanique, dont une partie voyage à travers l'usine avant d'être capturée, Edasif Aradotir, chef de projet pour CarbFix, explique la méthode.
Nous capturons le CO2 grâce à un processus très simple en le dissolvant dans l'eau. Ensuite, nous transportons cette eau contenant le CO2 dissous vers notre champ d'injection où nous l'injectons dans le sol et c'est là qu'il est transformé en roche par réaction de minéralisation avec le substrat rocheux environnant.
30% des rejets de CO2 de la centrale géothermique sont ainsi emprisonnés dans le sol à environ 1 km de profondeur en l'espace de 2 ans. Une méthode stable et sécurisée qui demande une énorme quantité d'eau, 25 tonnes pour chaque tonne de dioxyde de carbone injecté. Mais ce n'est pas du gaspillage, justifie Edasif Aradotir.
Je suis d'accord avec le fait que le processus demande énormément d'eau, mais nous gagnons beaucoup en éliminant définitivement ce CO2 qui autrement flotterait dans l'atmosphère.
L'eau est une ressource abondante en Islande, mais plus rare ailleurs sur la planète. Les ingénieurs de CarbFix ont donc désormais les yeux rivés vers les océans. Sandra Osk Snæbjørnsdóttir, géologiste pour le projet.
Nous faisons des expériences avec l'eau de mer, car si nous sommes capables de l'utiliser, l'approvisionnement en eau est infini. Il y a beaucoup de roches réactives situées à proximité des zones côtières et bien sûr dans les océans.
La capture et le stockage du CO2 dans le sous-sol terrestre sont encouragés pour limiter à 1,5 degré le réchauffement de la planète.
Jérémy Richard en Islande pour France Culture. Retour en France maintenant où la météo affichera un soleil partout aujourd'hui, sauf sur la Côte d'Azur ce matin. Mais les nuages devraient se dissiper cet après-midi. Les températures sont comprises en moyenne entre 5 et 9 degrés ce matin. On ira jusqu'à 25 degrés cet après-midi.